Radio Kapi.
Voici notre grande édition de nos informations vespérales dominicales avec Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi ce soir. L'Église du Christ au Congo recommande au président Félix Tshisekedi Tshilombo d'organiser un dialogue national entre Congolais en vue de résoudre les questions liées à la paix, à la sécurité et à la gouvernance du pays. C'est la conclusion de la 62e session ordinaire du comité exécutif de l'ECC tenue à Kinshasa. Réduction au Nord Kivu des frais de participation à l'examen d'État à 100 000 francs congolais pour les finalistes du secondaire. Ainsi en a décidé à Goma le gouverneur Peter Chirimwami. Cette mesure de l'autorité provinciale est saluée par la société civile. Notre invité, c'est le chef d'antenne du programme de la promotion des soins de santé primaire dans la Tchopo. Léonard Kambalé affirme que l'UNICEF apporte une réponse d'urgence en eau potable, hygiène et assainissement aux déplacés du conflit Mbolé-Lengola installé près de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga. Madame, Messieurs, bonsoir. L'Église du Christ au Congo ECC recommande au président Félix Tshisekedi d'organiser un dialogue national entre Congolais en vue de régler les questions de paix, de sécurité et de la gouvernance étatique. Cette recommandation intervient à l'issue des travaux de la 62e session ordinaire du comité exécutif national de l'ECC, lu ce dimanche lors d'un culte à la cathédrale du centenaire ici à Kinshasa. Sa explication de Paul Matendo.
L'Église du Christ au Congo, ECC, s'est dit préoccupée par la recrudescence des violences dans les provinces de l'Est et des Kwango et Maïndombe, aussi par la montée des tensions intracommunautaires dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. D'où Dominique Moukania, rapporteur national du Synode national de l'ECC, demande au chef de l'État d'ouvrir un dialogue national entre fils et filles du pays en vue de reconstruire la cohésion nationale autour des causes communes que sont la paix, la sécurité et la gouvernance de la RDC. Autre recommandation issue de ces travaux, finaliser la procédure de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en vue de poursuivre les auteurs nationaux et internationaux des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes économiques commis en RDC. Sous un autre chapitre, l'ECC dit conscientiser les leaders politiques à dépasser les différends qui les opposent pour permettre à la nation de survivre face aux complots ourdis contre elle et qui pèse sur le devenir commun. Aussi, mobiliser les fidèles protestants et l'ensemble de la population congolaise à s'approprier la lutte contre la balkanisation du pays. L'ECC n'a pas manqué de fustiger avec fermeté le protocole d'entente sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières conclu dernièrement entre l'Union européenne et le Rwanda dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays voisin dans le pillage systématique des matières premières au prix de crimes contre l'humanité en RDC.
Merci Paul Matendo pour ces précisions. Au Nord Kivu, pendant ces temps, les chefs des forces de défense de quatre pays membres de la SADC et du Burundi annoncent leur détermination à imposer la paix dans la zone affectée actuellement par la rébellion du M23. Ils l'ont affirmé hier après-midi à l'issue d'une mission d'évaluation de 3 jours à Goma. Explication Bernard Denyangui.
À l'issue de 2 jours de travaux, vendredi et samedi, les 5 chefs d'état-major généraux ont promis, entre autres, de renforcer les troupes de la mission de la SADC engagées aux côtés des troupes burundaises et des FARDC contre la rébellion du M23. Ils ont aussi mis en place des stratégies pour imposer la paix dans la région. C'est ce qu'a déclaré devant la presse le porte-parole militaire des FARDC au sortir de ces rencontres, le général-major Sylvain Kengé.
Il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer. Pour faire l'état des lieux de la situation, ils se sont rendus à Mobambiro. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale.
Arrivé jeudi à Goma, les délégations des chefs de forces de défense des pays contributeurs de troupes de la SAMI-RDC, notamment l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie, en présence des chefs d'état-major généraux des FARDC et du Burundi, ont clôturé samedi leur visite de travail à Goma. Goma, Bernard Dignangui, Radio Kapi.
Un soldat des FARDC et deux miliciens tués. Bilan d'un accrochage survenu ce week-end avec la CODECO à Douba dans le territoire de Djougou en Ituri. Des sources locales affirment à Radio Kapi que peu avant l'incident, les assaillants ont attaqué le marché situé à 24 km de Djougou centre. À Bounia, la correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Aux environs de 13h30, la base de la MONUSCO, dont la zone reçoit une première alerte de la présence des miliciens au marché de Djouda, où des tirs d'armes à feu étaient entendus. Aussitôt, une patrouille des casquets bleus se dirige vers ce village. Chemin faisant, les soldats de la paix se heurtent à une présence des miliciens qui ouvrent le feu contre eux. Les militaires de la MONUSCO ripostent avant de recevoir du renfort pour faire face à l'ennemi. Pendant ce temps, les assaillants avaient déjà tué un soldat des FADC à partant des sources concordantes. Plus d'une heure après, une autre patrouille de la MONUSCO qui se dirige cette fois vers le village Okapi tombe dans une nouvelle embuscade de ces mêmes rebelles. L'échange de tirs entre les deux parties va durer près d'une heure. Au moins deux éléments de la CODECO auraient été tués au cours des affrontements. Bien que le milice soit retiré de la zone, la MONUSCO a continué à effectuer des patrouilles de domination pour s'assurer que toutes ces bases sont sécurisées et restées en état d'alerte. Dans le but de prévenir d'éventuelles attaques de la CODECO contre les sites de personnes déplacées pendant la nuit. Bounia, Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Kapi.
On reste dans la province de l'Ituri où la vie a repris au centre de négoce à Mai, dans le territoire de Mahagi, suite à l'accalmie observée après les attaques des miliciens de la CODECO, ce qui a ainsi permis aux nombreux déplacés qui avaient fui l'insécurité depuis 2021 de regagner leur terroir. Reportage sur place de Martial Kizabiamungu.
Il est midi, le centre de Amé est envahi de centaines de personnes. Hommes, femmes et enfants se bousculent pour s'effrayer les passages ces jours de marché. Il y a quelques mois, ces centres de négoce étaient une cité fantôme. Cela après des attaques à répétition de la milice CODECO, ce qui avait entraîné les déplacements de ses habitants qui avaient fui vers d'autres entités sécurisées. Aujourd'hui, Amé devient vivable.
Actuellement, on voit que vraiment notre centre d'Amé commence à être habité. Déjà.
La présence renforcée de l'armée et de la police dans cette entité qui partage la limite avec le territoire du Djougou rassure de plus la population. Cependant, elle souhaite que cette accalmie soit pérennisée pour permettre le retour définitif d'une durable paix. Emmanuel Onin Obergiou est le président de la société civile des AMI.
Nous souhaitons à ce que la paix revienne parce qu'on solliciterait de renforcer la sécurité de la part des FARDC. Tout comme les nids territoriales.
Les autorités coutumières encouragent d'autres familles qui vivent encore en déplacement de regagner leur village pour contribuer au développement socio-économique de cette contrée ruinée par les violences armées. Depuis Amé, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les frais de participation à l'examen d'État sont rabattus actuellement à 100 000 francs congolais par le gouverneur Peter Chirimwami. Cette mesure de l'autorité provinciale modifie ainsi l'arrêté du 12 février qui fixait ces frais de participation à l'examen d'État à 130 000 francs congolais par finaliste du secondaire, soit environ 50 dollars américains. La nouvelle est annoncée lors d'un entretien avec la société civile. Pendant ces temps au Kasaï oriental, 50% d'enfants sur plus de 6000 ayant dépassé l'âge scolaire suivent actuellement une formation dans des centres de rattrapage scolaire de proximité à Mbujimayi, à Katanda, à Chilenge et à Lupatapata. Cependant, d'autres enfants traînent encore les pieds. Cette inquiétude a été évoquée cette semaine lors de l'évaluation de l'identification et l'orientation de ces enfants. Ces travaux ont été organisés par la division des affaires sociales et l'enseignement primaire, secondaire et technique avec l'appui financier de l'agence belge de développement Enabel. En Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Le rattrapage scolaire de ces enfants ayant dépassé l'âge scolaire rentre dans le cadre du projet intitulé « Intervention et éducation de base » implémenté au Kasaï oriental pour une durée de 5 ans par l'agence belge de développement Enabel. Il a pour but d'améliorer l'accès, la rétention et l'achèvement d'une éducation de 8 ans pour tous. Le chef de division provinciale des affaires sociales affirme que son service et la division provinciale de l'EPST ont identifié plus de 6 000 enfants ayant dépassé l'âge l'âge scolaire. 3020 enfants ont été identifiés en Boujimaï et 3600 ont été trouvés dans les sous-divisions de l'EPST de Katanda, de Chilenge et de Lupatapata. Malgré les conditions mises à leur disposition au niveau des trois réseaux des centres de rattrapage scolaire de proximité appuyés par Enabel, le constat reste amer. C'est-à-dire 50% de ces enfants ne se rendent pas dans les centres de rattrapage scolaire. Pour les retourner sur le chemin de l'école, quelques recommandations ont été formulées au cours de l'atelier de jeudi dernier, entre autres la remise d'un petit cash aux parents pour les activités génératrices des revenus, la sensibilisation des parents à travers les médias et l'ouverture des cantines scolaires. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Autre nouvelle ce soir sur Radio Okapi. En visite officielle en Turquie, le président Félix Tshisekedi Chilombo participe au troisième forum diplomatique d'Antalya. Ces assises sont organisées par le ministère turc des Affaires étrangères sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan. En marge de ce forum, le chef de l'État congolais a rencontré le groupe Albarak, un opérateur économique turc. C'est ce que nous explique Paul Matendo.
Selon cette dépêche, au cours de cette troisième édition, les discussions sont axées sur les thèmes « Faire progresser la diplomatie en période de troubles ». Il est question donc de réfléchir sur le voie de sortie pacifique de la période des turbulences que traverse le monde. Guerre, terrorisme, changement climatique et autres pandémies, précise la même source. Parmi les participants figurent des chefs d'État et de gouvernement. Pour ce qui les concerne, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce samedi 2 mars à marge de ce forum avec une délégation du groupe turc Albarak, expert en construction, transport public, gestion des déchets et immobilier, rapporte cette dépêche. Un entretien qui a tourné autour de l'assainissement public de la ville de Kinshasa par cet opérateur économique. Selon notre source, Ahmed Albarak, président de ce groupe, a déclaré, je cite, « Nous avons commencé les études et les équipements dont 70 véhicules sont déjà sur place. Nous avons aussi envoyé 2000 containers de ramassage des déchets qui arrivent dans 2 semaines. Dans 20 jours, nous lançons l'assainissement. » Fin de citation. Dans son agenda, Félix-Antoine Tshisekedi prévoit de rencontrer également d'autres investisseurs turcs, souligne notre source.
Santé à présent, la deuxième phase de la campagne de traitement de l'ulcère de Buruli, communément appelée Mbassou, aura lieu du 6 au 20 mars prochain à la polyclinique Chari de ma campagne ici à Kinshasa. C'est ce qu'annonce à Radio Okapi le docteur Jean-Paul Olembelembe. Cet expert des plaies évoluant en France affirme que l'objectif de cette campagne est de divulguer officiellement des nouvelles techniques de prise en charge en faisant recours à la greffe. Il est dit au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Cette deuxième phase vise à consolider ce qu'on avait déjà démarré lors de la première phase au courant du mois de décembre dernier, avec comme objectif de sensibiliser aussi bien les patients porteurs de cette pathologie difficile qu'est le Mbassou et de sensibiliser aussi les professionnels de santé. Les résultats que nous avons obtenus lors de cette première campagne sont très encourageants. Et donc, dans cette deuxième campagne, nous allons continuer avec de l'innovation en proposant de nouvelles techniques de prise en charge, notamment la formation aux greffes pour les médecins qui suivent ces patients. Nous avons également sensibilisé à la détection de la pathologie phare de Mbassou en encourageant les patients à se faire diagnostiquer le plus précocement possible. Nous proposerons également d'autres techniques comme la thérapie à pression négative dont nous souhaitons faire bénéficier les patients du pays.
Actualité internationale.
Au Gabon, M. Alain Mangwadi et Thierry Nkoulou, deux leaders syndicaux du secteur de l'éducation nationale qui étaient enlevés ce week-end, ont affirmé avoir été retenus dans des résidences privées par des hommes proches du président de la transition, Brice Nguema. Ils leur reprochaient de saboter systématiquement l'action du président de la République en incitant les enseignants du pays à participer à une assemblée générale pour revendiquer le paiement de leurs soldes et la régularisation de leur situation administrative. Et puis au Portugal, c'est la dernière ligne droite de la campagne électorale avant les élections législatives de dimanche prochain. Il s'agit notamment de choisir un nouveau Premier ministre. 8 formations politiques ayant une représentation à l'Assemblée nationale sont en lice, ainsi que plusieurs autres partis politiques.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef d'antenne du programme de la promotion des soins de santé primaire dans la Tchopo. Léonard Kambalé affirme que l'UNICEF apporte une réponse d'urgence en eau potable, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lengola installé aux environs de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga, Kisangani. Il s'entretient avec Jacques Mkonkolé.
Léonard Kambalé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous décrire les ouvrages que vous avez réalisés au profit des déplacés ainsi que la communauté de Lubunga?
Avec l'effort de l'UNICEF, nous avons réalisé des ouvrages dans la composante eau, hygiène, assainissement. Donc il y a des ouvrages qui sont spécifiques pour la composante eau, d'autres qui le sont pour la composante assainissement et d'autres pour la composante hygiène. Pour la composante eau, nous avons aménagé, nous avons construit un forage fonctionnant avec le système photovoltaïque. Donc nous avons la pompe, nous avons le panneau solaire et nous avons une cabine de commande pour ça. Alors, quand la pompe approvisionne le tank, nous avons un tank de 20 mètres cubes qui est approvisionné par pompe solaire à partir du forage. Alors, la pompe amène l'eau à hauteur. Et à partir de là, le réservoir plein, l'eau est redistribuée.
Redistribuée où exactement?
Voilà, donc nous redistribuons aux bénéficiaires.
Qui sont ces bénéficiaires?
Les bénéficiaires de cette eau, il y en a de trois sortes, même quatre. Premièrement, sont les déplacés du site Sainte-Marthe. Il y a une borne fontaine qui est au site et l'eau quitte le réservoir qui est ici au niveau de SNCC vers le site Sainte-Marthe. Le deuxième bénéficiaire sont les écoliers de l'école primaire Loualaba. Là, il y a aussi une autre borne fontaine. Troisième bénéficiaire, c'est la communauté. Il y a une autre borne fontaine pour ça. Et quatrième bénéficiaire, c'est l'hôpital même de SNCC qui a aussi une borne fontaine. Et l'eau arrive là-bas par gravitation, moyennant une mini-addiction que nous avons mise à place pour la cause.
Là, vous avez parlé de l'eau, de la distribution de l'eau aux bénéficiaires. Alors, par rapport à l'assainissement, qu'est-ce qui a été fait?
Par rapport à l'aspect assainissement, là, nous sommes intervenus spécialement au niveau du site Sainte-Marthe. Nous avons construit 8 portes de latrine, dont 4 pour femmes et 4 pour hommes. Et nous avons aussi aménagé 2 trous à ordures pour la gestion de déchets ménagers. Je vais ajouter qu'il y a aussi les ouvrages de composantes hygiène. Et là, ce sont des douches, 8 portes aussi, 4 pour hommes et 4 pour femmes. Et dans la même composante hygiène, il y a aussi les dispositifs de lavage des mains qui ont été donnés aux déplacés.
En combien de temps vous avez réalisé ces ouvrages?
Les ouvrages, nous les avons réalisés en un mois. Comme c'est un projet d'urgence, il y a seulement un mois qui nous a été donné pour ça. Et c'est ce qui a été fait.
Ah, si ce n'est pas un secret, on peut en savoir le coût?
Oui, le coût de ce projet était de ces 4 000 $.
Maintenant à que ces ouvrages ont été réalisés, il y a un problème qui se pose, c'est la maintenance. Comment cela va-t-il se faire?
Bon, justement, pour l'aspect maintenance et pour assurer la pérennisation des 10 ouvrages, nous avons initié un comité de gestion de ces ouvrages. Un comité conjoint constitué d'une part avec les éléments de l'hôpital, d'autre part l'école et les sites, les déplacés eux-mêmes et le chef de quartier Kolwezi. Donc, ils vont constituer un groupe conjoint pour la gestion des ouvrages. Et pour se rassurer que des éventuelles réparations pourront être possibles, le puisage de l'eau pourra être conditionné par un paiement. Et à puisant, on va fixer un prix, c'est un prix conventionnel qui sera fixé pour chaque puisage et un montant pourra être capitalisé pour la cause et en cas d'éventuelle réparation, on pourra recourir à cette caisse-là.
Ingénieur Léonard Kambalé, pouvez-vous rassurer les bénéficiaires de la potabilité de cette eau que vous venez de mettre à leur disposition?
Ok, merci beaucoup pour la question qui est intéressante. Je vais vous rassurer que l'eau est potable et sur quelle base je vais le faire. Avant d'autoriser la consommation de cette eau, nous avons procédé à une analyse bactériologique au laboratoire des facultés des sciences. La faculté des sciences a analysé les différents paramètres de l'eau et à conclusion, ils ont dit que l'eau est bonne pour la consommation. Et donc, c'est une eau potable certifiée par le laboratoire de faculté des sciences de l'UNICIS.
Ingénieur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef d'antenne du programme de la promotion des soins de santé primaire dans la Tchopo, Léonard Kambalé, interrogé à Kisangani par Jacques Mkonkolé. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.